Alors, le texte s'intitule « La filière montréalaise d'El Chapeau ». C'est signé Vincent Larouche et Daniel Renault dans la presse de ce matin. Vincent Larouche, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez en train de me raconter à micro fermé qu'hier, à un moment donné, vous avez vu un tweet, c'est ça, un tweet passé d'un journaliste du New York Times
qui est dans la salle, qui couvre le procès de l'heure aux États-Unis, le procès d'El Chapeau, et qui mentionne, le délateur parle un peu de leurs associés dans différents pays, et là, il mentionne un certain mafioso du nom de Tony Suzuki.
Et là, toi, quand t'as vu Tony Suzuki, t'as dit « Ah-ha! »
Ah-ha! L'ancien concessionnaire automobile montréalais de Ville-Marie Suzuki.
C'est vrai, ça?
Oui, c'est un joueur que, si on suit un peu les actualités du crime organisé montréalais, Tony Suzuki, de son vrai nom Antonio Pietrantonio, c'est un joueur important dans la mafia à Montréal. Les journalistes aux États-Unis qui sont dans la salle au procès, eux, ils ont d'autres chats à fouetter, ça leur dit rien. C'est pas un nom qui sonne une cloche pour eux. Mais ici, c'est quelqu'un qui a quand même tout un historique, tout un passé dans la mafia à Montréal et qui récemment avait fait une sortie très remarquée dans cette espèce de mariage princier que les Hells Angels ont tenu au centre-ville de Montréal.
Oui, oui, avec la fille de la trafiquante
de Canis Attaqué.
Oui, c'est ça.
Et M. Pietrantonio, Tony Suzuki, était là et s'était affiché. Il avait fait une entrée remarquée à cet événement-là. C'est quelqu'un qu'on voit dans ces milieux-là à Montréal. Et là, tout d'un coup, il est évoqué directement par le secrétaire personnel d'El Chapo, qui est devenu délateur et qui témoigne contre son patron à Brooklyn en ce moment.
Et qui dit quoi? Quel était le rôle? On va garder le nom de Tony Suzuki, parce que ça devient mêlant. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce procès, le secrétaire d'El Chapo, hier? Parce que quand vous avez entendu ça, je trouve ça intéressant, quand vous avez vu le tweet du New York Times passer, vous avez obtenu la transcription. Vous avez demandé la transcription du procès de la journée d'hier. C'est comme ça que vous avez écrit votre papier.
Oui, exactement. Les choses marchent vite aux États-Unis et c'est possible d'obtenir la transcription, les notes sténographiques de la journée le soir même. Et donc, hier, ce que le délateur expliquait, c'est l'ancien secrétaire personnel d'El Chapo, Alex Cifuentes, qui témoigne et il dévoile toutes les ramifications de l'organisation. C'est vraiment fascinant. Et là, il dit « Le Canada, pour nous, gros marché, des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires pour nos exportations de cocaïne, héroïne, méthamphétamine. Mm-hmm. » Il dit « Pour la distribution au Canada, il fallait que je me coordonne avec la mafia italienne. Il y avait ce monsieur, Tony Suzuki, avec qui je devais arranger un peu les affaires. Et on avait aussi un représentant, carrément un de nos employés qui était au Canada. Et cet employé-là du cartel, c'est un Montréalais lui aussi, du nom de Steven Tayo, qui est un ancien étudiant de l'Université Concordia, un agent d'immeuble qui était l'employé du cartel de Sinaloa au Canada et qui coordonnait vraiment l'arrivée de la drogue
les importations
au pays. Exactement. Le cartel de Sinaloa, les troupes d'El Chapo, ils ne sont pas impliqués dans la distribution au Canada. Eux, ils exportent ça en vrac, des grosses quantités. Et ici au Canada, on a la mafia italienne, les Hells Angels, des organisations criminelles locales qui s'occupent de distribuer ça jusqu'aux consommateurs.
Sinaloa, c'est le grossiste.
Exactement, hein? Le vendeur en gros. Eux autres, ils exportent partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis. On a appris que le Canada, c'était aussi un gros marché pour eux, mais c'est des grossistes, ils ne vont pas se mêler de la vente au détail dans des pays étrangers où ils ne sont pas implantés vraiment.
Alors, ils sous-traitent la distribution, dans ce cas-ci, à la mafia italienne, aux Hells, etc., etc. Alors, comment ils s'y prenaient pour l'amener, cette cocaïne, chez nous?
Et ils ont expliqué qu'ils avaient différents moyens par camion remorque, évidemment, qui est peut-être la façon la plus conventionnelle, mais aussi
donc
par
tu passes aux douanes
avec des marchandises. Il y a tellement de marchandises chaque jour qui passent aux douanes. Tu dissimules ça de différentes façons dans des remorques. Tu peux passer pour chaque quantité qui est interceptée, tu peux en passer une aussi grande quantité peut-être qui ne sera pas interceptée.
Oh, puis aussi grande,
et même plus.
Hein, oui, voilà.
Ils utilisaient aussi des hélicoptères pour faire des vols sur des courtes distances au-dessus de la frontière, déposer leur cargaison et revenir sans se faire pincer. Parfois par bateau aussi, parce que le cartel d'El Chapo, ils étaient beaucoup sur la côte ouest américaine et ils faisaient passer des bateaux jusqu'à Vancouver aussi, où ensuite on distribuait ça à la grandeur du Canada. Mais ce qu'ils ont expliqué hier, c'est que El Chapo personnellement, avait essayé de développer un plan pour implanter une nouvelle route vers le Québec où on aurait tenté de louer ou d'acheter des terrains de part et d'autre du lac Champlain.
De part et d'autre de la frontière.
Exactement. Donc, des maisons qui auraient eu des quais pour les bateaux du côté américain et d'autres maisons qui auraient eu accès aussi à des quais du côté canadien.
Puis Dieu sait que ça se promène entre les deux, on s'entend.
Il y a beaucoup de trafic.
Ben oui,
et là,
ben oui.
Ça a l'air tout à fait anodin.
Ben oui, les plaisanciers.
Exactement. Hein? Donc, personnellement, on a joué même un extrait d'écoute électronique que les Américains ont intercepté où El Chapo, personnellement, parle de ce plan-là impliquant les deux côtés de la frontière. Il pensait aussi qu'on pourrait peut-être acheter des ranchs, parce que pour lui, bon, des grandes propriétés, des ranchs de part et d'autre de la frontière canado-américaine pour faciliter les transferts puis augmenter peut-être son chiffre d'affaires.
Oui, c'est ça. S'il connaissait un peu plus notre territoire, il aurait dit on va acheter des bonnes terres.
Oui, c'est ça.
Des bonnes terres de part et d'autre.
Des bonnes terres agricoles.
Alors, oui, exactement. Alors, écoute, c'est quand même, je trouve ça fascinant. Où est-ce qu'ils en sont maintenant, Tony? Alors, Tony Suzuki, vous nous avez donné un peu de ses nouvelles. C'est intéressant parce que le gars est lié à la mafia italienne. À un moment donné, je pense qu'il est arrêté ou je sais pas quoi. Oui. Et là, il réapparaît aux fameuses noces dont vous nous avez parlé, mais les noces d'un Hells.
Oui, parce que tout ce monde-là, dans la distribution, dans le crime organisé canadien, maintenant, travaille main dans la main. On a une organisation qui est vraiment hégémonique, c'est les Hells Angels, et tout le monde s'associe à eux. Tous les autres groupes viennent faire des affaires avec eux, participent à des projets d'importation, de la distribution ensuite.
Ils diminuent leur risque de cette façon-là. Hein?
Oui, puis de toute façon, la coopération, ça, ils l'ont compris depuis longtemps. Si on se fait pas la guerre, si on se compétitionne moins, qu'on s'entend tous ensemble, c'est le principe d'un cartel, d'ailleurs, de toute façon.
Oui.
Si on s'entend ensemble, c'est meilleur pour les affaires que si on se fait la guerre, si on s'entretue et si on lutte. Par contre, Tony Suzuki n'est accusé de rien présentement et il y a rien qui nous a indiqué à date que les Américains ou la police canadienne ont plus de preuves pour étayer le témoignage du délateur à son sujet.
Même chose pour Tayo, là, l'ancienne étudiante Concordia, ça me frappe. L'ancienne étudiante Concordia qui est le représentant d'El Chapo
au Canada. Exactement, un trentenaire apparemment sans histoire. Par contre, lui est en prison en ce moment. Lui a été condamné en mai dernier pour son implication dans un projet d'importation
de cocaïne.
Bon. Et ce qu'il avait expliqué, la police avait espionné ses conversations et ce qu'il disait, là j'ai des grosses cargaisons qui s'en viennent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une porte soit à Montréal, soit à Toronto pour m'aider à faire rentrer mon stock parce que j'en ai beaucoup qui doit rentrer, qui s'en vient et j'ai besoin de facilitateurs pour faire rentrer au Canada. Il a été pincé et le voilà en prison pour une peine assez longue d'ailleurs.
Il nous reste 2 minutes. Si on prend un peu de recul par rapport à la situation montréalaise, puis on regarde le procès qui se déroule présentement à New York, là, quelles sont les 2 ou 3 grandes découvertes, mettons, de ce procès-là?
Ce procès-là, c'est pas pour rien que les yeux du monde sont tournés vers ce procès-là qui se tient à Brooklyn, qui est hyper sécurisé. D'ailleurs, on ferme le tunnel pour l'amener au palais de justice à Brooklyn à partir de Manhattan, tellement on craint une nouvelle tentative d'évasion. El Chapo s'est évadé 2 fois de prison au Mexique et puis on veut pas qu'il y ait une 3e fois. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Les journalistes de l'Équateur qui couvraient ça hier ont eu tout un pan absolument fascinant sur comment des membres corrompus de l'armée équatorienne protégeaient la route de la cocaïne à partir des producteurs jusqu'au cartel mexicain. Il y a des chapitres croustillant sur comment on envoyait des prostituées à des généraux mexicains pour s'assurer leur bienveillance par rapport aux affaires.
Pour les compromettre.
Pour les compromettre aussi, certainement. Et puis pour s'assurer leur bonne grâce. Et il y a des parties sur des politiciens sud-américains, sur les routes vers différents pays. Et sur aussi à quel point ils pouvaient se jouer des autorités en arrosant avec la corruption, en arrosant différents joueurs clés dans la police, dans l'armée, puis en faisant assassiner ceux qui refusaient de prendre l'argent aussi. Il est accusé de dizaines de meurtres dans cette affaire-là. Ah. Alors on voit vraiment, c'est une combinaison de la carotte et le bâton. Qui a fait son succès pendant des années puis qui l'a rendu vraiment insaisissable alors qu'il était l'ennemi public numéro 1.
Absolument.
C'était l'homme le plus recherché par les États-Unis, le trafiquant de drogue le plus puissant de la planète.
Il contrôlait, vous le dites dans votre papier, à un moment donné, c'était quoi, 75% du trafic de cocaïne dans le monde, quelque chose comme ça?
C'est des estimés, mais c'est un pourcentage gigantesque, effectivement. Et puis les Américains l'avaient mis tout en haut de leur liste.
Après avoir liquidé Osama Bin Laden...
C'était leur prochaine cible, vraiment, de prédilection. Oui.
Oui. Alors, vous allez continuer à suivre ça?
On suit ça, ça continue aujourd'hui. Et puis...
Est-ce que vous allez vous taper la transcription encore ce soir? je disais que vous aviez les yeux petits parce que c'est bien beau de faire lire le texte, mais il faut le lire puis il faut écrire le papier après.
Effectivement, dans la salle, ça va plus vite, mais là, on ne peut pas se permettre d'être là à tous les jours. On fait du mieux qu'on peut.
Très bien, Vincent Larouche, journaliste de La Presse. C'est du bon journalisme. Merci.
Merci, bonne journée.
Ben oui. Alors, on s'arrête. Et au retour, c'est Loïc Tassé qui s'amène. Il va nous donner les dernières informations là, sur ce qui se passe au Parlement de Westminster. Puis on va faire un petit cours Brexit 101. Okay? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on parle de ça. Puis faut pas prendre pour acquis là, que toutes les technicalités puis les trucs un peu plus pointus, faut pas prendre pour acquis qu'on les maîtrise tous. Fait qu'on va mettre la table comme il faut. Là. Le Brexit, c'est quoi? Là? Puis quel genre de conséquences on pourrait avoir, dépendamment du vote qu'on va connaître dans à peu près une trentaine de minutes?